au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Pierre Vess. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université de Genève et vous allez nous parler de la célébrissime gravure « Le chevalier, la mort et le diable » réalisée en 1513 par Albrecht Dürer. Dürer, tout le monde le connaît, peintre, dessinateur, mais aussi théoricien de l'art et mathématicien, et graveur sur bois et sur cuivre, et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Il compte parmi les plus grands créateurs de l'art occidental et c'est un des rares artistes de la Renaissance allemande qui nous soit bien connu. Il a signé et daté ses œuvres, ses autoportraits. On aurait dit qu'il avait envie de nous faire le cadeau de toute sa vie puisqu'il a fait beaucoup d'autoportraits. Il a tout fait pour que son art soit associé à son image et que tout ceci lui survive. Mais pourtant, quelques mystères demeurent autour de certaines de ses œuvres. On ne comprend pas toujours ces estampes. Les titres sont peut-être trop liminaires et ça a induit les historiens parfois en erreur. En tout cas, ils ont cherché des interprétations et comme vous le dites dans votre livre, ce qui s'appelle « Reître ou chevalier, Dürer et l'idéologie allemande », ce livre est paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Vous dites bien que toutes les interprétations sont subjectives, risquent d'être des désinformations, voire des inventions pures et simples, en tout cas le fruit de passion. Alors maintenant, dites-nous un petit peu ce que cette gravure pouvait représenter. Alors nous avons une description que vous avez vous-même rédigée et nous allons commencer par l'entendre.
Dans un paysage accidenté passe, de droite à gauche, un cavalier en armure, portant la lance et ceint de l'épée. À gauche, la mort montée sur un pauvre cheval et tenant un sablier semble s'apprêter à lui couper le chemin. À droite, derrière lui, un diable debout lève sa main griffue comme pour s'emparer de lui. Un chien l'accompagne. Un lézard ou une salamandre rampe sous son cheval. Dans l'angle gauche, un crâne repose sur un tronc d'arbre coupé contre lequel est posé un cartellino. Qui porte la date de 1513, précédée d'un S et le monogramme de l'artiste.
Effectivement, dans cette description, vous ne cherchez pas à interpréter. On ne peut que vous en rendre justice puisque vous évitez les dérives dont on a parlé tout à l'heure. Et je voulais vous parler des titres. Existaient-ils à l'époque ?
Non, les titres n'existaient absolument pas. Les titres sont apparus. Tardivement, ils sont apparus lorsqu'on s'est mis à rédiger des catalogues, tout simplement.
C'est-à-dire dans quel siècle ?
C'est-à-dire 18e, surtout 19e siècle. En l'occurrence, ce titre traditionnel, « Le chevalier, la mort et le diable », en allemand « Ritter, Tod und Teufel », est un titre qui date de la fin du 18e siècle et qui est apparu dans un catalogue des gravures de Dürer, mais qui n'est absolument pas original, et donc sur lesquelles il est impossible de se fonder. Il faut faire très attention parce que même si l'on sait que ce titre est tardif, inconsciemment, on se laisse influencer par la présence du mot « Ritter », c'est-à-dire « chevalier ».
Oui, toutefois, on voit quand même bien qu'il y avait un chevalier et il y avait le symbole de la mort avec le sablier et le diable qui a d'ailleurs plutôt une bonne tête, je trouve, pour un diable avec toutes ses cornes en bas, en haut, son petit air un peu triste. En quoi est-ce que cette gravure est-elle si importante? Pourquoi est-ce qu'il a fallu tant d'interprétations?
Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est une pièce absolument extraordinaire d'un point de vue formel et d'un point de vue technique. C'est une des grandes gravures sur cuivre de Dürer, ce qu'il appelait les Halbbogen, c'est-à-dire une demi-feuille, mais ce sont de grands formats, c'est les plus grands formats qu'il ait utilisés pour la gravure sur cuivre. Et c'est une gravure extrêmement raffinée dans la technique du burin, qui est une technique très, très difficile. Et en fait, Dürer a été certainement le plus grand buriniste de toute l'histoire de la gravure.
Oui, parce qu'il n'y a aucun repentir possible.
C'est très difficile, il faut effacer, il risque de se voir. Non, c'est une technique extrêmement difficile et que Dürer a poussé à un point tout à fait extraordinaire. On admirait le premier texte que nous ayons sur cette gravure, c'est un texte de Vasari, le peintre et auteur italien, qui admirait beaucoup les effets. On croit distinguer la couleur de la robe du cheval, tellement le métier est époustouflant.
C'est-à-dire qu'il vient d'une dynastie d'orfèvres. Et il a travaillé le métal, sans doute très tôt.
Oui, c'est-à-dire que la gravure sur cuivre est une technique qui dérive de l'orfèvrerie, alors que la gravure sur bois, qui se développe à peu près au même moment, est une technique qui apparaît avec les débuts de l'imprimerie.
C'est-à-dire que, bien sûr, Dürer avait une formation familiale.
Très tôt, il a voulu s'orienter vers la peinture, ce qui au début n'a pas plu à son père, mais enfin son père l'a laissé partir vers la peinture, alors qu'évidemment le métier d'orfèvre, quand il y avait une dynastie d'orfèvres bien établie, était un métier très rentable. Cela dit, alors je parlais des origines de la gravure sur bois et sur cuivre, ce sont donc deux techniques totalement différentes, et ce qui est remarquable, c'est que Dürer ait pratiqué les deux, ce qui était relativement nouveau.
Il était protéiforme, Dürer. Il savait faire tous les styles d'art picturaux. Et dans votre livre, vous dites que le premier plan nous montre un cheval et son cavalier, mise en scène rigoureuse, classique, presque une sobriété des Italiens. Et puis, derrière, en arrière-plan, des comparses, beaucoup plus expressifs, avec un foisonnement d'ailleurs de personnages, la mort, le diable, le chien, le lézard. Dites-nous un petit peu à quoi ça correspond pour Dürer, tout ça.
Eh bien, ça dépend. Il y a des symboles ou des animaux, des objets qui peuvent avoir une valeur symbolique qui n'est pas certaine. Il y a également la tête de mort posée sur oui. un rang d'arbres et le cartel lino avec un S devant la date. Tout cela reste très mystérieux en fait. Par contre, la mort et le diable, c'est une iconographie fréquente à l'époque, c'est-à-dire un personnage qui peut être d'ailleurs un soldat. Et une gravure sur bois de Dürer reprend la chose. En tout cas, pour la mort, c'est la mort qui va saisir le personnage. Et évidemment, ce personnage risque de ne pas être en état de grâce, car la mort ne se prévoit pas. Et donc, s'il n'est pas en état de grâce, il ira en enfer, ce qui est logique.
Parlons de toutes les interprétations que les différents historiens d'art ou même des philosophes ont données.
Oui, alors ces interprétations, il y a eu en gros deux tendances. L'une, de voir dans ce personnage un chevalier chrétien, pour qui la mort et le diable ne sont pas des réalités importantes.
Oui, parce que ses qualités morales lui permettent de les négliger.
Oui, il y a eu des exceptions à l'époque romantique pour deux auteurs. En fait, la mort, c'est la mort chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre le rôle de la mort et le rôle du diable.
Oui.
Des personnages qui ont été accompagnés toute leur vie par la mort, mais qui va quand même s'emparer d'eux, mais une mort chrétienne, et qui ont résisté au diable. Mais dans la plupart des interprétations, la mort et le diable vont ensemble. La mort saisit le personnage et le diable le saisit. Ou plus exactement, lorsque le chevalier chrétien, il passe en méprisant la mort et le diable. L'autre interprétation, c'est le chevalier brigand. Donc le chevalier ici, au sens de Ritter en allemand, de membre du Ritterstand, c'est-à-dire du groupe inférieur de la noblesse, par opposition au Herren, c'est-à-dire les ducs, comtes, etc. C'était les chevaliers, c'est tout à fait en bas, et qui, pour des raisons économiques, tournaient au brigandage, et en particulier, évidemment, étaient de grands ennemis des bourgeois. Les bourgeois le voyaient d'un très mauvais œil, ces petits hobereaux qui vivaient plus ou moins de rapine, ou qui étaient censés le faire. Alors, en réalité, il y a là deux interprétations qui s'opposent, mais qui ne sont pas contemporaines et qui ont connu des variations selon l'évolution de l'état d'esprit en Allemagne depuis les Lumières.
Je voulais aussi qu'on évoque l'arrière-plan. Est-ce que c'est la Jérusalem céleste ? C'est une forteresse ou c'est un château ? Il y en a beaucoup chez Dürer.
Les interprètes qui voient dans la figure le chevalier chrétien, d'abord, ils se dirigeraient vers la Jérusalem céleste, ce que rien n'indique dans la gravure, absolument rien. Mais en vérité, il s'agit d'un motif qui n'a pas forcément une signification particulière parce qu'on le retrouve dans énormément d'œuvres de Dürer ou de Cranach à la même époque. Disons, c'est un lieu commun que de placer une ville ou un château, et dans le cas de cette gravure, il est difficile de savoir si c'est une ville ou c'est un château, sur un rocher très escarpé dans le fond d'une composition, que ce soit une peinture ou une gravure.
Sans doute, en fait, une recherche esthétique pour tirer l'œil et pour cadrer tout ça, beaucoup plus qu'ésotérique ou religieuse.
Il est difficile de savoir quelle est exactement la signification de ce motif, mais encore une fois, c'est un motif extrêmement courant, et le fait que certains le qualifient de Jérusalem céleste et déclarent que le chevalier dirige ses pas vers ce haut lieu montre bien dans quel cercle vicieux se posent la plupart des interprétations. C'est-à-dire que comme c'est la Jérusalem céleste, ça doit être le chevalier chrétien, et comme c'est le chevalier chrétien, c'est la Jérusalem céleste. Mais la plupart des interprétations tournent en rond, et à partir d'une description qui fausse les choses, déjà qui donne déjà une interprétation des différents motifs, des animaux, etc., retrouve ce qu'on a posé à l'origine.
Tout à l'heure, vous parliez de nationalisme et de romantisme allemand, le héros germanique. Il y a aussi Faust dedans.
Oui, mais alors c'est venu plutôt secondairement. En réalité, les grandes lignes d'interprétation, d'abord au XVIIe siècle, on donne dans les catalogues, on parle tantôt de chevalier chrétien, tantôt d'un personnage, en fait un serviteur d'une grande famille patricienne de Nuremberg qui serait perdu dans la forêt et qui aurait eu une vision. Et ces deux interprétations sont exclusives l'une de l'autre et parfois elles paraissent côte à côte dans le même catalogue. Mais en fait, on ne s'y intéressait pas. Ce qui intéressait, c'était la gravure, la qualité de la gravure, la qualité des tirages. L'idéologisation, si j'ose dire, de la gravure commence à l'époque des Lumières. Et on sent très bien qu'il y a là un sentiment antinobiliaire qui fait que ce doit être un chevalier brigand. La notion de chevalier brigand, Raubritter, apparaissant d'ailleurs à cette époque vers 1800. Ensuite, il y a un renversement total avec le renversement de l'esprit public, disons, en Allemagne au moment des guerres napoléoniennes, avec un nationalisme extrêmement fort et un retour à la religion. Et à partir de là, c'est là qu'on revient à cette figure très chrétienne. Et ça va se développer au cours du 19e siècle, surtout dans la seconde moitié, surtout au moment de la création du Reich, où la religion dominante et la religion allemande par excellence, c'est le protestantisme. Et à ce moment-là, le chevalier devient le héros de la réforme. Alors, allemand, germanique, donc avec un très fort nationalisme, puisque c'était le nationalisme ambiant en Allemagne, comme d'ailleurs dans d'autres pays à l'époque, dans la seconde moitié du 19e siècle. Hein. Un héros germanique par excellence et en même temps un héros protestant. Alors, tantôt, l'accent est plus mis vers l'aspect germanique, tantôt plus sur l'aspect religieux. Ça a été, disons, la vision dominante qu'on a eue de ce personnage pendant très longtemps. Et tous les arguments très savants, très érudits qui ont été apportés ne faisaient en fait que essayer de fonder scientifiquement quelque chose qui s'imposait idéologiquement.
C'était un peu de la propagande ?
Enfin, de la propagande, c'est une gravure qui a eu en Allemagne une importance extraordinaire, uniquement en Allemagne, je dirais, par opposition à la liberté sur les barricades de Delacroix, qui est une figure de la liberté ou de la révolution qui a été utilisée dans énormément de pays, dans des affiches de propagande en particulier. Là, c'est un phénomène allemand, mais qui est allé très très loin. Et ça va depuis la caricature politique jusqu'à la haute philosophie, avec Nietzsche qui lui a donné une interprétation très particulière de la gravure.
Quel était le fond de son interprétation ? Je crois qu'il parlait du solitaire.
Oui, c'est-à-dire que pour lui, ce personnage méprise la mort et le diable, Mais en fait, ce n'est pas du tout un personnage chrétien, c'est le philosophe solitaire qui suit sa voie, on ne sait pas où, à vrai dire. C'est à la fois une vision pessimiste. Très, très pessimiste que la vision que Nietzsche a de ce personnage.
Et en quoi le rattache-t-il au héros allemand ?
Alors lui, pour lui, ce n'est pas un héros allemand. Il reprend simplement la vision qu'on donnait, c'est-à-dire le personnage passe sans regarder la mort et le diable.
Pas de tentation, pas de peur.
Pas de peur, mais il va nulle part, ou on ne sait pas où il va. Il y va vers son destin, disons. C'est à la fois une force morale, mais c'est en même temps une vision désespérée qui n'est pas du tout chrétienne chez Nietzsche, et ni nationaliste allemande, certainement pas.
Mais pourtant, ça a été récupéré.
Bon, ça, c'est autre chose. C'est la philosophie de Nietzsche elle-même. Dans cette interprétation, alors, d'abord, Thomas Mann y était très sensible. Mais ensuite, chez Thomas Mann, la gravure évolue aussi vers la religion réformée. Et puis, alors, il y a surtout un historien de l'art allemand, Hubert Schrade, qui était très proche du Troisième Reich, enfin, tout à fait partisan du national-socialisme, mais avec des idées très personnelles, et qui a donné une interprétation un peu similaire, c'est-à-dire pas du tout chrétienne, le personnage étant, comme le personnage de Nietzsche, une sorte de héros, mais qui ne va pas vers le salut chrétien du tout, du tout, ce qui est animé d'une grande force, simplement sa vision est un petit peu plus optimiste que celle de Nietzsche. Il parle à la fin de l'interprétation qu'il en donne d'un dieu, mais d'un dieu caché, qui n'est pas le dieu chrétien du tout.
C'est plus positif, effectivement.
Oui.
C'est moins douloureux que pour celle de Nietzsche.
Oui, exactement, oui. Enfin, ce sont des interprétations très, très particulières et tout à fait différentes du courant général, disons.
L'interprétation nazie.
Le nazisme n'a fait que reprendre l'interprétation positive habituelle, oui. C'est-à-dire que l'interprétation positive, le chevalier comme chevalier chrétien, a pu être tiré, c'est le chevalier allemand sans peur et sans reproche et sans crainte. Donc il était facile d'utiliser cette gravure à tel point que Gombrich, qui était un immense historien de l'art, qui était autrichien et d'origine juive et qui a fui à Londres, dit que pendant la guerre, il a entendu à la radio Goebbels exhorter, prendre cette gravure comme exemple pour exhorter les Allemands à la résistance.
Ça signifie la référence nationaliste de cette gravure, puisque c'était un outil qu'on peut évoquer comme ça et tous les Allemands comprennent ce que ça voulait dire.
Tous les Allemands comprennent, et bien sûr, oui, c'est une gravure extrêmement célèbre.
Et populaire aussi, dans tous les niveaux.
Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging.
Il y a eu une prétendue trilogie.
Oui, alors là, c'est un problème annexe, disons, qui a fondé cette interprétation. Parce que l'autre interprétation, celle du chevalier brigand que nous avons laissé à l'époque des Lumières, est ressortie, et en particulier chez les historiens de l'art marxiste, après 1960, en gros, qui ont repris le thème en disant que c'était un représentant, que Dürer était proche de la bourgeoisie commerçante et banquière de Nuremberg.
Nuremberg,
même s'il,
oui,
n'était pas patricien, il en souffrait beaucoup, mais enfin bon. C'était quand même un grand ami de Pirkheimer, qui était un des très grands patriciens de Nuremberg. Donc, proche de la bourgeoisie commerçante de l'époque, il dénoncerait là cette classe sociale en plein déclin, c'est-à-dire cette petite chevalerie privée de ses bases économiques et qui serait reconvertie au brigandage pour survivre, mais qui était condamnée par l'histoire avec un grand H. Ça, c'est une résurgence de cette interprétation qu'on avait à l'époque des Lumières, qui revient chez les historiens de l'art marxiste. La trilogie, elle, alors, ça a été une annexe, si j'ose dire, à la théorie du chevalier chrétien. Elle est apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle. Très vite, elle a été condamnée et curieusement, Panofsky y est revenu. Ensuite, elle a été considérée comme une vérité d'évangile parce que les historiens de l'art sont très sensible à l'argument d'autorité.
Alors, trilogie, parce que trois gravures, la nôtre, puis celle qui nous occupe, Mélancolie, Mélancolia, et puis Saint Jérôme dans sa cellule.
Voilà, qui sont de 1513-1514. Et alors, parce qu'un auteur, un historien de l'art allemand, avait trouvé, à la fin du XIXe siècle, avait exhumé un texte d'un théologien et philosophe allemand de la fin du Moyen-Âge, de la fin du XVe siècle, où il est question des trois vertus. Alors, ces trois personnages incarneraient ces trois vertus. La vertu morale, c'est le chevalier chrétien qui incarnerait une vertu morale. La vertu intellectuelle, mélancolie, et la vertu religieuse ou mystique, le Saint Jérôme. Alors, en réalité, on n'a aucun argument sérieux à l'appui de cette théorie qu'on retrouve encore, mais ça c'est explicable, dans des catalogues d'exposition très récents. On voit toujours ressortir cette théorie d'être juif, simplement parce que les auteurs de catalogues sont pressés par le temps, ne font pas de recherche et reprennent tout simplement le livre de Panofsky sans se donner la peine ou le temps ni de réfléchir ni de lire d'autres ouvrages.
Oui, ils ont des sources et voilà. ils sont contents.
En réalité, cette théorie d'ailleurs, à peine formulée, a été mise en doute. Elle a été pressée par une autre théorie selon laquelle ce seraient les quatre tempéraments.
Alors, il en manque un.
Mais il en manquait un, c'est ça qui était très gênant. Les quatre tempéraments, parce que la théorie des tempéraments était considérée à l'époque de Dürer comme une certitude à l'égal de l'astrologie. Et Dürer croyait dur comme fer au tempérament.
Alors, les tempéraments colériques.
Le sanguin, colérique, flegmatique et mélancolique.
Mélancolique,
voilà. Bon, la mélancolie, ça va de soi, n'est-ce pas ? Alors, on a pensé que le chevalier serait le tempérament sanguin parce qu'il y a un S avant la date sur le cartel Lino en bas à gauche. Mais le S, on l'a interprété aussi comme la première lettre du nom du personnage, qu'on a voulu historiciser, hein, ou bien alors comme également Salus, abréviation de Anno Salutis, l'année depuis la naissance du
Christ.
Oui,
parce que c'est le petit carton sur lequel il y a la date et la signature.
Et un S, oui, il y a le monogramme de Dürer, et puis il y a un S. Et bien ce S, on a trois hypothèses, aucune n'est vérifiable. C'est-à-dire qu'on choisit l'hypothèse qui convient à son interprétation, on s'appuie dessus pour interpréter, mais en fait, que ce soit Salus, que ce soit l'initiale d'un nom, ce qui est très peu probable, hein, ou que ce soit l'initiale du tempérament sanguin, ce sont là des hypothèses. J'entends honnêtement, mieux vaut renoncer, dire qu'on ne sait pas, plutôt que de vouloir absolument percer le mystère.
Surtout que peut-être que mystère il n'y a pas. Et qu'il a simplement voulu faire un cheval dans toute la beauté de son art, et puis qu'il l'a entouré.
En fait, tout le monde, tous les historiens d'art savent que les premières études datent d'environ 1503. C'est-à-dire, en 1504, il réalise une gravure de même dimension, la gravure Adam et Ève, qui est alors là très clairement une démonstration des proportions du corps humain. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'il a commencé très tôt ses études sur le cheval, qu'il était très influencé par soit des dessins de Léonard de Vinci pour un monument équestre, soit par le Colleone de Verrocchio à Venise, ou par les deux d'ailleurs.
Hein, oui.
Et que
soit par Donatello aussi.
Le Gattamelata de Donatello peut-être aussi. En tout cas, que son cheval, c'est un cheval qui a des proportions, ou qui est censé avoir des proportions, comme Adam et Ève ont les proportions parfaites du corps humain. Mais cette explication a paru, depuis la fin du XVIIIe siècle, beaucoup trop courte. Prenez ça pour un prétexte, alors que le fond de l'affaire serait la représentation du chevalier chrétien ou au contraire une polémique contre les chevaliers brigands. C'est, à mon avis, une erreur totale de perspective historique, parce que pour Dürer, ce problème des proportions du cheval était fondamental. Comme les proportions du corps humain, il a d'ailleurs publié à titre posthume, juste après sa mort, est paru cet énorme ouvrage en plusieurs livres sur les proportions du corps humain.
Oui, puisque tout à l'heure, on a dit qu'il était théoricien d'art, oui, et mathématicien.
Oui, parce qu'il a écrit un ouvrage qui est le premier ouvrage de géométrie en langue allemande. Il a introduit un certain nombre de termes pour traduire les termes italiens.
Il était très nationaliste. Il avait très envie de développer.
Alors là, c'est un traité qui était fait pour l'instruction des peintres. Et il avait rêvé, il a longtemps travaillé à un grand traité de la peinture qui n'a pas terminé, mais il en est sorti cet énorme ouvrage sur les proportions du corps humain. Et il avait certainement avancé un manuscrit sur les proportions du cheval, parce qu'il était à peine mort qu'un de ses anciens disciples a publié un bouquin qui a été interdit d'ailleurs par le Grand Conseil de Nuremberg sur les proportions du cheval, qui était en fait
la suite.
Alors, ça paraît aujourd'hui plutôt une curiosité, c'était fondamental pour Dürer, absolument fondamental. Car Dürer, qui était très proche des milieux humanistes, c'est parce qu'il a été en contact très jeune avec des humanistes, en particulier avec Pirckheimer, que sans doute il s'est orienté vers ses préoccupations théoriques, et en même temps ses préoccupations théoriques l'ont fait reconnaître par les humanistes comme un de leurs pères. des préoccupations théoriques qui, pour lui, étaient nécessaires pour fonder la peinture, pour fonder l'art de peindre, cela pour la faire sortir de l'artisanat, c'est-à-dire pour qu'elle s'élève au statut d'une activité libérale.
Ça, c'est oui, parfaitement clair. Art libéral.
D'un art libéral, pour que les peintres allemands puissent s'élever à la hauteur des peintres italiens en fondant leur art sur des connaissances géométriques, sur la connaissance des proportions, la connaissance de la perspective, etc. Donc c'était fondamental. Et ces grandes gravures sur cuivre, qui s'adressent à un public restreint mais choisi, sont de véritables manifestes esthétiques. Adam et Ève de 1504, c'est les proportions du corps humain. Cette gravure, c'est les proportions idéales du cheval. C'est pourquoi il est d'ailleurs vu rigoureusement de profit au premier plan, parce qu'on ne peut pas démontrer les proportions idéales du cheval si le cheval est dans le fond ou s'il est vu en biais, en perspective,
oui, là,
s'il s'agite, s'il rue,
il
marche lentement, il est rigoureusement parallèle au plan de la feuille.
Une sculpture.
Oui, exactement, oui. Le Saint Jérôme, dans sa cellule, est certainement une extraordinaire démonstration de la perspective linéaire, avec un tour de force qui est la chaise tournée sous un certain angle, mise en perspective. La Mélancolie, c'est plus difficile, je dois dire, et c'est une gravure bien mystérieuse encore.
Oui, qui n'a pas révélé ses mystères.
Malgré tout ce qu'on a pu écrire sur elle. Oui. Donc c'est très très important, et il est à peu près certain que les personnages ont été ajoutés après coup, et sont des personnages secondaires parce qu'une gravure de cette ampleur, on ne pouvait pas simplement faire un cheval. Il fallait qu'il y ait une histoire qui ennoblisse le sujet.
Il a fait du remplissage, alors, vous allez dire.
Les proportions du corps humain, il a trouvé Adam et Ève au moment de la chute. Ouais. Et là, il avait le cheval, il fallait qu'il trouve, en même temps qu'il ajoute une histoire. Et manifestement, quand on regarde bien la gravure, Wölfflin est le seul à avoir parlé de compromis, ce qui a fait bondir certains admirateurs de Dürer. Ça ne retire rien à l'extraordinaire qualité de l'œuvre que de dire que on ne sait pas comment est placé le cheval de la mort, que le diable est
des uns et des autres,
que le diable est particulièrement maladroit, et que en fait un historien de l'art avait au début du XXe siècle essayé de démontrer qu'en réalité, s'il a rajouté le diable et la mort, c'est parce qu'il a corrigé les pattes du cheval. Et que comme il ne pouvait pas les effacer, il a rajouté deux personnages. Alors c'est peut-être extrême, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a là, il faut bien dire, des maladresses. De même que Adam et Ève, si on prend Adam et Ève pour la démonstration des proportions du corps humain, c'est une gravure extraordinaire. Si on cherche dans Adam et Ève le drame chrétien de la chute, il faut dire que ça devient très décevant. L'attitude d'Adam et d'Ève n'exprime rien, à vrai dire. Et là, c'est pareil, on a une magnifique gravure des proportions du cheval, avec un traitement technique extraordinaire.
Oui, il y a une plastique.
Mais les personnages qui ont été rajoutés ont été manifestement rajoutés avec une histoire qu'on retrouve dans d'autres œuvres de Dürer, parce qu'on a d'autres œuvres de Dürer avec un personnage à cheval, et en particulier un extraordinaire dessin dans les marges du livre d'heures de Maximilien, un extraordinaire dessin qui montre un cavalier en armes tentant d'échapper à la mort et que le diable va saisir, ça c'est absolument certain. Et c'est l'œuvre qui se rapproche le plus de notre gravure, dans laquelle, soit dit en passant, et ça, Brachrade l'avait bien souligné, il n'y a pas, enfin, mis à part le fait que le diable, évidemment, fait partie de la religion chrétienne, cela va de soi, sinon il n'y a pas le moindre signe chrétien dans toute la gravure. Contrairement aux représentations du chevalier chrétien, là, on a une très riche iconographie au XVe, XVIe siècle, encore au XVIIe siècle, où toutes ces œuvres qui représentent le chevalier chrétien, on voit tout de suite que c'est un chevalier chrétien. Ou bien il y a une inscription, ou bien ça illustre un livre, ou bien il y a une croix. Enfin bon, on ne peut pas se tromper. Tandis que là, il n'y a aucun symbole chrétien. Le diable, évidemment, il fait partie de la religion
de toute façon
chrétienne, bien sûr. Mais enfin bon,
mais de toutes les religions,
oui.
C'est le mal.
Et on a un certain nombre d'œuvres de l'époque, pas seulement de Dürer, mais dans l'époque, qui montrent la mort allant s'emparer d'un soldat.
D'un soldat.
D'un soldat, oui.
Oui, enfin, là, oui, je tombe dans le panneau, là, effectivement. Voilà, voilà. Mais je voulais vous parler aussi d'un objet que j'aimerais bien que vous nous présentiez, même si les symboles sont difficiles à comprendre. C'est la queue de renard qui est à l'extrémité de la lance.
Oh, alors là, on a beaucoup écrit, ça c'est extrêmement délicat, parce qu'un auteur suédois, Sten Carling, qui lui apparemment n'était pas marxiste, autant que je sache, mais qui est revenu à la théorie du chevalier brillant, a fait valoir que cette queue de renard, c'était quelque chose d'extrêmement négatif ou péjoratif. On s'est aperçu depuis qu'en fait, il y avait des troupes, il y avait même, l'empereur Maximilien avait même créé une troupe à cheval dont les membres devaient porter une queue de cheval. Et un auteur italien de l'époque nous dit que les peuples du Nord avaient l'habitude de mettre à leur lance des queues de cheval ou des queues de loup pour effrayer les ennemis. Mais ça ne prouve pas que ce soit un chevalier chrétien pour autant.
Non, non, c'est simplement l'attribut des cavaliers de l'époque.
Ça peut être un attribut d'un homme en armes à l'époque, oui. Vous avez parlé de la trilogie tout à l'heure, mais je pense qu'on n'a pas abordé la question essentielle de la trilogie, c'est que lorsque Dürer voyage aux Pays-Bas en 1521, il a tenu un livre de raisons très précis. Et il faisait des échanges. En fait, c'était un système de troc, tout simplement. Il donnait des gravures. Il en avait apporté, je pense, des malles entières. Il donnait des gravures, plus ou moins selon le rang des personnages.
Voilà, l'estime qu'il avait des gens.
Voilà. Et il la recevait. On lui faisait des cadeaux. Enfin, c'était un système de troc largement répandu à l'époque. En général, lorsqu'il s'agit de gravures sur bois, il ne dit rien. Ou il aurait dit mon livre, ou bien la passion, enfin, donc de grandes séries. Les gravures sur cuivre, il donne un nom. C'est la mélancolie. Alors, c'est Saint-Jérôme, mais on ne sait pas, il y en a tellement des Saint-Jérôme. Lorsqu'il dit Saint-Jérôme Himgeroy, c'est Saint-Jérôme dans sa cellule. Sinon, Saint-Jérôme assis, ça peut être un autre Saint-Jérôme, c'est difficile. Ce qui est certain, c'est que par deux fois, il parle de Mein Reuter. Mais jamais les trois ne sont présentés ensemble. Donc, manifestement, ces trois gravures ne faisaient pas une série, c'est certain. Hein. Et il n'y a aucun argument sérieux à cette découverte de cette théorie, donc, les trois vertus d'un philosophe et théologien de la fin du XVe siècle. Sinon, on n'a aucune raison de penser que c'est une trilogie. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ça, j'ai retrouvé sous la plume d'un peintre allemand qui, en 1824, était à Rome et qui a vu les gravures de Dürer à ce moment-là chez un peintre allemand nazaréen. Et qui, c'était une époque où le culte de Dürer avait pris des proportions extraordinaires en Allemagne. C'était Saint Dürer, vraiment. Hein. Et il raconte plus tard dans ses mémoires qu'il lui a semblé que ces gravures avaient un lien quelconque. Et on voit très bien comment on part d'une sorte de réaction subjective, de persuasion intime, et qu'ensuite on va accumuler les arguments pour prouver que c'est comme ça. Hein. Mais là, il n'y a absolument aucune raison de croire que ces gravures aient formé une trilogie. Par contre, on a une chose certaine, c'est que c'est un Reuter. Et ça, c'est un point important.
Dürer a beaucoup représenté la mort, les cavaliers et la mort. Alors évidemment, c'est forcément un sujet qui fait qu'on a envie de trouver un petit peu plus. Pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez essayer de résumer ?
Alors écoutez, là j'en étais à Reuter et je crois que c'est un petit peu l'œuvre de Christophe Colomb. C'est pas moi qui l'ai trouvé parce que je me suis entouré des avis d'un certain nombre d'Allemands spécialistes de linguistique allemande. C'est qu'on a toujours pensé que Reuter, c'était une forme dialectale ou enfin bon, une variante phonétique de Reiter qui signifie cavalier et que Reiter, Ritter, c'est la même origine. Donc comme cavalier-chevalier. L'ennui, c'est que à Nuremberg, en 1500, les deux mots, d'abord le mot de Reiter est très peu employé. Le terme de Ritter existe déjà depuis longtemps et les deux sont, il est impossible de confondre les deux phonétiquement. Et si ça avait été un Ritter, un chevalier, Dürer aurait dit Ritter, il n'aurait pas dit Reiter.
Oui. Mais on a une piste très.
Voilà. Mais le comble, c'est qu'en réalité, Reuter est un mot qui était déjà ancien dans la langue allemande et qui n'a rien à voir avec le terme de Reiter, cavalier, mais qu'il a une toute autre origine. À l'origine, c'est le mot Rutarius du bas latin qui est passé en bas allemand par le néerlandais et qui, en français, a donné routier.
Oui, qui ne sont pas tellement rassurants, les routiers.
Mais non, c'est en fait des brigands de grand chemin. Ouais. Parce que la distinction n'est pas toujours très claire entre les deux, ou alors des mercenaires.
Ça serait un mercenaire à cheval.
Tout simplement, quand on voit alors, tous les textes de l'époque que j'ai pu trouver, où il y a Reuter, à Nuremberg, enfin, ou en Allemagne du Sud, tous les textes par Reuter, c'est manifestement ou bien des brigands de grand chemin, comme chez le poète Hans Sachs, les maîtres chanteurs de Nuremberg, ou bien, alors, ça se trouve dans des chroniques, la seconde moitié du XVe siècle, le mercenaire à cheval.
D'accord. Alors, dans votre titre, vous avez choisi de donner ce titre, le reître.
Reître vient de Reuter. C'est le soldat à cheval, tout simplement. À une époque où les armées étaient largement composées de mercenaires. Et alors ça, c'est ou bien un homme d'armes à cheval, ou bien un brigand. On ne sait pas, peu importe d'ailleurs, parce qu'entre les deux, il y a beaucoup de points communs, qui va être saisi par la mort et le diable, parce que c'est son destin très probable. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la démonstration des proportions du cheval.
Très bien. Merci, Pierre Metz.
Mercenaire brigand, pour toi, il n'y a point de salut. Comme tous, la mort va te saisir. Depuis longtemps, et en plusieurs œuvres, j'ai voulu représenter le face-à-face de l'être humain et de la mort. Dès qu'il s'engage dans la voie étroite, où se tiennent diable et lézard maléfique, la mort l'attend. L'heure est venue et la cité devient inaccessible. La mort le tient et le fige à jamais.
Ich wandre sonder Maßen ohne Ruh und suche Ruh. Und ich wandre sonder Maßen ohne Ruh und suche Ruh und suche Straße muss ich gehen, eine Straße.